Saint Paul, un juif, un citoyen romain, un grec cultivé? Nous savons bien que Paul est tout cela à la fois, mais nous avons souvent du mal à comprendre comment articuler ces identités multiples. En outre, Paul nous paraît bien loin de notre culture moderne. Et pourtant, Paul pourrait bien être le champion de la mondialisation avant l'heure. C'est ce que nous allons découvrir avec le père Marc Rastoin, jésuite, enseignant au Centre Sèvres et à l'Institut biblique de Rome.
Paul est un juif d'une des plus grandes villes de la diaspora, Tarse. C'est un homme qui appartient à la fois au monde hellénistique, marqué par la culture grecque, et qui en même temps, il ne faut pas l'oublier, très enraciné dans le judaïsme. Il le dit lui-même, il est pharisien, fils de pharisien. Il connaît sa tribu, celle de Benjamin, ce qui est très rare à l'époque. Ça signifie vraiment un souci d'enracinement dans le judaïsme. Donc on pouvait parfaitement être très lié à la diaspora et en même temps profondément attaché à son identité de fils d'Israël.
Quel était l'univers culturel dans lequel baignait Paul ?
Je crois qu'il est bon de partir du principe que Paul a vraiment au moins une double culture. La culture juive, biblique, marquée par l'étude des règles rabbiniques, par l'étude de la Bible en hébreu, qu'il a sans doute perfectionné à Jérusalem, alors peut-être avec le pharisien Gamaliel, ça c'est les actes qui le mentionnent, et puis sa culture marquée par la philosophie populaire grecque, notamment l'école philosophique de Tarse était très connue pour ses stoïques et pour son rayonnement philosophique. Alors Marie-Françoise Basselès à Paris aime aussi à dire sa culture romaine, il était citoyen romain de naissance, il connaît bien le fonctionnement de l'Empire romain, mais l'Empire romain à l'Est était de culture grecque. Donc, je crois qu'il est préférable de garder cette idée d'un Paul biculturel, profondément formé à la fois à la rhétorique gréco-latine et à la philosophie grecque, et d'un autre côté, formé à la Bible, aux règles d'interprétation de l'écriture que développent les rabbins.
Et l'événement de la rencontre du Christ va venir bouleverser la culture dans laquelle il habite ou ça s'insère dedans ?
Je pense que cela s'insère, ça ne bouleverse pas sa culture, mais sa culture va lui permettre de donner toutes ses dimensions à ce changement radical d'orientation. Les juifs de la diaspora à l'époque avaient un peu deux grands choix qui vont encore les déchirer pendant tout le siècle qui va suivre, soit celui finalement d'une résistance extrêmement forte et violente à l'influence romaine, cela va donner la grande révolte de la diaspora en 115-118, ou évidemment le chemin de l'assimilation, dont nous savons qu'il était pour des jeunes tels que Paul, une option crédible. Nous avons l'exemple du neveu de Philon d'Alexandrie, le grand philosophe, Tiberius Julius Alexander, qui était à peu près du même âge que Paul, et sans doute avec la même formation culturelle de base, et qui lui, sans doute entre 20 et 25 ans, a fait le choix de passer au service de Rome, de renier son judaïsme, jusqu'à devenir le chef d'état-major de l'armée romaine en 70.
Paul, vu son intelligence, aurait carrément pu faire carrière dans l'Empire, faire tout à fait autre chose.
Absolument. Paul aurait pu devenir un autre Tiberius Julius Alexander, un très haut fonctionnaire romain. Il aurait pu également poursuivre les affaires familiales. Visiblement, sa famille avait tout un réseau très étendu de négociants d'affaires. On sait qu'il avait un neveu à Jérusalem par les actes. Paul avait une multitude de choix devant lui. Et là où Tiberius Julius Alexander a choisi de renoncer à sa foi pour faire carrière dans l'Empire, eh bien, Paul a fait un autre choix, un choix qu'il a reçu comme une grâce. Enfin, il a été transformé radicalement dans sa foi. Finalement, il a réussi à trouver dans sa vie une troisième option qui n'était ni le reniement du judaïsme et de la Bible, ni le service zélote d'une vision très nationaliste du judaïsme qui pouvait être celle des zélotes. Il a choisi de communiquer ce Messie qui avait changé l'histoire à l'ensemble du monde méditerranéen, à tous les citoyens, à tous les membres esclaves, hommes libres, hommes, femmes, juifs, grecs, voilà. Il a choisi une autre voie qui, pour lui, conciliait fidélité profonde au projet de Dieu, au Dieu d'Israël, et en même temps prise en compte de toute l'humanité telle qu'elle était sous ses yeux depuis son enfance.
Est-ce que c'est la formation de Paul, soit juive, soit grecque, qui a influencé ses choix apostoliques ?
Paul était particulièrement apte à voir l'importance, par exemple, des capitales de province. Paul fait des choix extrêmement précis dans les villes où il va, Éphèse, Corinthe, Thessalonique, et puis finalement Rome. Et on sait, ce qui est très original, qu'il vise l'Espagne, qui n'est pas du tout un pays qui fait partie de l'horizon de pensée habituellement au Proche-Orient. Donc il s'insère dans le réseau de relations et le réseau d'échanges de l'Empire romain, Il s'adresse à tous les milieux, il n'hésite pas à parler à des hauts fonctionnaires romains, à des chefs de synagogue, et sa culture gréco-latine lui donne un terrain commun avec ces hommes. Donc il peut adapter son argumentation, adapter son annonce du Christ, le kérigme, le message reste le même, mais il peut formuler, par exemple, la libération de l'esclavage du péché et des passions, en termes qu'un grec peut comprendre.
Est-ce que la diversité des courants du judaïsme à l'époque où habite Paul, qui s'inscrit dans le pharisianisme, est un obstacle pour lui ou plutôt une richesse pour l'expansion de l'évangélisation ?
Paul a sans doute connu depuis son enfance la diversité du judaïsme. Ce qu'on peut constater, c'est que, bien sûr, ce sont les juifs croyants auxquels il continue à s'adresser dans sa vie, par exemple à Corinthe, le chef de la synagogue. Et je pense qu'il était particulièrement à même aussi de pouvoir parler à cette immense foule de prosélytes, de craignants Dieu, de gens qui étaient intéressés par les valeurs bibliques, les valeurs morales du judaïsme. Paul était particulièrement à même de comprendre ces gens-là, leur désir d'entrer dans la foi d'Israël et en même temps de rester membre de leur peuple, de leur cité, de leur nation. Et c'est ce qui va être possible avec les nouvelles communautés chrétiennes. On va pouvoir être Thessaloniciens, Romains et croyants dans le Dieu d'Israël qui a agi décisivement en Jésus de Nazareth.
Finalement, l'univers de Paul ressemblait-il à notre culture contemporaine éclatée ?
L'Empire romain de l'époque de Paul, c'est la première mondialisation. Des dizaines de peuples, de langues et de cultures qui sont ensemble, sous une même autorité, dans un réseau d'échanges extrêmement vaste. Les professeurs d'université bougent, de Tars à Athènes, à Alexandrie, à Rome. Il y a de grands courants d'échanges commerciaux qui se développent avec la paix romaine. Paul est complètement à l'aise dans ce monde-là. Il ne connaît pas un monde uniforme d'un point de vue religieux. Il utilise, on va dire, les atouts de la mondialisation de l'époque pour le service de la foi, en utilisant tous les moyens qui sont à sa disposition.
Paul, a-t-il surtout évolué dans une culture d'intellectuel ?
Je crois qu'il ne faut pas imaginer non plus, après ce que j'ai dit, un Paul qui graviterait uniquement dans le monde des notables et dans un monde pacifié. Il a reçu plusieurs fois des châtiments corporels sévères. C'est un homme qui est passé par des épreuves physiques et morales extrêmement grandes. À la fin de Galates, il dit qu'il a reçu les marques du Christ. C'est vraiment au sens de l'apôtre qui a risqué sa vie dans des naufrages, a risqué sa vie en recevant les 39 coups de fouet. Enfin, ça a été un homme qui a été aussi au plus proche, j'allais dire, des dockers et des esclaves, des gens les plus humbles de la société. Voilà, c'est un homme qui s'est fait tout à tous et assez radicalement dans sa vie.